Les deux bouts de la corde, par Richard Keller, chapitre 22. La session de printemps de la cour d'assises s'ouvrit le lundi 3 mars. Trois procès étaient inscrits à l'ordre du jour du tribunal. Le premier concernait une fusillade à la sortie d'une boîte de nuit. Deux gosses de 20 ans y avaient laissé leur vie. C'était un drame de la bêtise humaine, du racisme ordinaire. Les victimes avaient la peau noire. L'assassin, videur de la discothèque, avait eu une altercation avec les jeunes. Il était parti chercher une arme, et la suite de l'histoire allait se dérouler dans le prétoire. La seconde affaire était plus obscure. Il s'agissait de règlements de compte entre truands sur fond de prostitution. Une jeune femme moldave, en situation irrégulière, avait payé de sa vie son désir d'être libre. Trois accusés devaient répondre de ce crime devant les assises. L'assassin de Toinette et Germain serait jugé en dernier. Compte tenu des délais envisagés pour les autres affaires, les débats ne devaient débuter que le lundi 17 mars. Une cinquantaine de citoyens, sélectionnés sur les listes électorales, étaient présents dès le premier jour de la session. La désignation des jurés avait lieu le premier jour de chaque procès. Chacun espérait être tiré au sort dès le début. Cela permettait de se libérer dès l'énoncé du premier verdict. Il y avait 29 hommes et 21 femmes. Les procès se déroulèrent conformément au calendrier. Le videur de la boîte de nuit écopa d'une condamnation à 30 années de réclusion, dont 18 incompressibles. Les trois proxénètes énervèrent beaucoup les magistrats et le jury. Ils furent condamnés à perpétuité, avec une peine de sûreté de 20 ans. Le 17 mars, à 9 heures, le juge Gilbert Berland, président de la cour d'assises, ouvrit les débats. Les jurés potentiels étaient tous dans la salle. Il ne restait que 12 hommes et 9 femmes sur les bancs. Robert Rigaud, très faible, semblait être ailleurs. Maître Livy était très attentif aux propos du président de la cour d'assises. « Messieurs, nous allons procéder à la désignation du jury, » annonça le président. L'avocat de la défense récusa 4 hommes et une femme, et le ministère public 3 hommes et une femme. La stratégie de maître Livy était simple. Il comptait sur la sensibilité féminine pour essayer d'apitoyer le jury, afin que le verdict ne soit pas trop lourd. Il avait récusé une femme car il la trouvait autoritaire et elle était célibataire. Il avait aussi écarté un militaire en retraite, deux chefs d'entreprise et un responsable des ressources humaines. 5 femmes et 4 hommes furent retenus. La moyenne d'âge était de 57 ans. L'ensemble des jurés féminins était composé de 2 enseignantes, une chef d'entreprise, une retraitée de la fonction publique hospitalière et une sans profession. 2 retraités, un artisan charpentier, un agriculteur, constituaient le jury masculin. Après leur désignation et celle des suppléants, le président Berland prononça une suspension de séance. L'audience devait reprendre à 14 heures. À l'heure dite, le président Berland fit son entrée. Il était accompagné de 2 assesseurs. Tout le monde s'était levé. D'un geste de la main, il fit signe à l'assemblée de s'asseoir. Au premier rang, Martine Bedel et Régis Drochard étaient assis côte à côte. Franck n'était pas venu. Hugues était retenu par ses activités au Japon. Kevin et Vanessa, toujours ensemble, complétaient la travée. Après l'interrogatoire d'identité, le président lut l'acte d'accusation. C'était fastidieux, mais il convenait de poser le décor. Rigaud était absent. Il regardait droit devant lui et répondait machinalement aux questions du président. À 17 heures, Gilbert Berland décida de suspendre les débats. Il attendait les protagonistes le lendemain 18 mars à 9 heures. Le printemps pointait son nez à la fenêtre. Nicolas Favant avait obtenu l'autorisation de s'absenter car il était convoqué au tribunal comme témoin. La journée s'annonçait difficile pour la défense de l'accusé. L'audience était consacrée à la découverte des corps. au défilé des témoins de l'accusation et des enquêteurs. Sagol, Gilles, Liard et le nordiste étaient assis deux rangées derrière la famille. Le mardi et le mercredi furent pénibles à vivre. Nicolas Favant eut du mal à décrire ce qu'il avait vu. Tony Gussionne relata comment il avait décroché les époux de Rochard. Vanessa sanglotait dans la salle. Son frère tenait son visage dans ses mains. Le mercredi matin, 19 mars, les enquêteurs se succédèrent au prétoire. Sagol fit un résumé du travail de son équipe. Il compléta son exposé par des réponses fournies par ses subordonnés. Le président le félicita pour la clarté de ses propos et la structuration de sa présentation. Sagol pensa que ce n'était pas un oral du bac. L'après-midi, les experts défilèrent à la barre. Le docteur Tardieu témoigna le premier. Il resta très technique et conclut que l'ensemble des éléments constatés ne lui avait pas permis de délivrer le permis d'inhumer. Le médecin légiste confirma que les défunts étaient vivants lorsque Robert Rigaud les avait suspendus à la corde. L'accusé et la famille Drochard aspiraient ardemment à la fin. Le dernier intervenant fut le biologiste, responsable des analyses ADN. Aucun doute n'était permis. Les résultats étaient incontestables. D'ailleurs, la défense n'avait jamais mis en doute la procédure. Maître Jonas, l'avocat de la famille Drochard, savait que son rôle était aisé. Aussi décida-t-il d'être bref. Il requit les témoignages de Kevin Drochard et Madame Gisèle Recouvra, infirmière. Après quelques questions pour éclairer la cour sur la personnalité débonnaire des victimes, il déclara qu'il n'avait pas d'autres témoins à appeler. Maître Livy choisit, en accord avec son client, de ne faire citer aucun témoin de la défense. Le président Berland en fut surpris. Il posa deux fois la question, et par deux fois, Maître Livy confirma que son client et lui-même n'avaient pas fait appel à des témoins de moralité. L'avocat général prit la parole le jeudi en fin de matinée. Son réquisitoire fut implacable. Il mit l'accent sur l'âge des victimes et parla de barbarie. Il cherchait l'humanité dans le regard de l'accusé et ne la trouvait pas. Il traita Robert Rigaud d'escroc à la petite semaine. D'un revers de manche, il rejeta la fin tragique des parents de l'accusé. C'était trop ancien. Même la mule du pape n'avait ruminé sa vengeance que 7 ans. Il conclut, en se tournant vers la famille, tout en désignant Rigaud du doigt, « Une famille brisée, une famille désemparée, face à un monstre au sang-froid. Vous êtes ce que la société engendre de plus pervers, un être ordinaire qui a décidé de tuer, comme on décide d'acheter un paquet de bonbons ou une pizza. Il ne faut plus que vous traîniez vos casseroles dans nos campagnes. » Et il se tourna vers les jurés. « Mesdames, messieurs les jurés, en plus de ce meurtre, il a aussi sali l'entreprise Cuisine Saine. Son PDG a fait part à la cour du changement d'enseigne de sa société. Après l'époque Cuisine Saine, voici le temps de la campagne saine. En condamnant lourdement l'accusé, vous rendrez justice aux époux Drochard et vous protégerez vos familles. Je requiers la perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 30 années. Compte tenu de l'âge de M. Rigaud, il sera inoffensif dans 30 ans. » Les jurés écoutèrent avec attention le réquisitoire. Certains prirent des notes. Maître Jonas utilisa des arguments similaires pour sa plaidoirie. En 40 minutes, il lamina Robert Rigaud. Le président de la cour appela Maître Livy à ses côtés pour lui parler en tête à tête. « Maître, il est presque 17 heures, et je vais suspendre la séance à 18 heures. Souhaitez-vous commencer votre plaidoirie dès à présent, ou bien préférez-vous plaider d'un seul jet demain matin ?»« Va pour demain matin, monsieur le président. Mesdames et messieurs, l'audience est suspendue. Nous reprendrons demain matin à 9 heures. » C'était le jour du printemps, en ce 21 mars. Le sort de Robert Rigaud allait se jouer. L'issue ne faisait aucun doute. Il restait à connaître les oscillations éventuelles des jurés. Maître Livy adopta un ton solennel. Il s'adressa aux femmes et aux hommes en face de lui, en jouant sur la fibre familiale. Il revint sur le drame qu'avait vécu son client 30 ans auparavant. Mesdames, messieurs les jurés, il n'est pas question de nier que la mort d'Antoinette et Germain Drochat est une tragédie. Cependant, l'amour appelle l'amour. Ce geste doit nous rappeler la tragédie qu'a vécue Robert Rigaud. N'oubliez pas que mon client était fils unique. Il était aux antipodes, impuissant face au destin cruel. La nuit polaire est tombée comme une chape de plomb sur les épaules d'un jeune homme de 23 ans. Je vous demande, mesdames et messieurs, lequel d'entre vous penserait ressortir indemne d'une telle épreuve? Oh, je ne vous demande pas une réponse. Questionnez seulement votre conscience au moment de votre décision. Ce geste est la dernière preuve d'amour qu'il a donnée à son père et sa mère, injustement acculés au désespoir. Vous ne pouvez pas dissocier la mort des uns et la mort des autres. Monsieur l'avocat général a eu des phrases chocs. Les miennes ne sont que les mots du cœur meurtri de Robert Rigaud. Mesdames et messieurs, mon client sait qu'il doit payer devant la justice des hommes. Je ne vous demande pas son acquittement, simplement une peine en accord avec les deux tragédies. Merci, maître. Accusé Robert Rigaud, avez-vous une dernière déclaration à faire au jury? Robert Rigaud se leva, il regarda la famille et prit la parole. Je ne suis pas avocat. Aujourd'hui, je n'ai pas le verbe facile. Mais face au néant, il n'y a rien à faire. Je regrette que le destin n'ait pas choisi mieux. Pardon à tous. La plaidoirie de Maître Livy avait bouleversé le jury. C'était palpable. Les derniers mots de l'accusé étaient plus sibyllins. Le président reprit la parole. Le jury se retire pour délibérer. Le public quitta la petite salle. La famille discutait avec Maître Jonas. Robert Rigaud échangea quelques mots avec son avocat et sortit par une porte latérale, escorté par deux gendarmes. Il attendrait dans une cellule. Presque tous les proches voisins de Toinette et Germain étaient présents, ainsi que le chef Émile. Le chef Sagol était venu à titre personnel. Il était en civil. Les délibérations du jury duraient. Sur les marches du palais de justice, le public et les proches attendaient la décision. Les jurés mirent 3 heures pour se mettre d'accord. Vers 17 heures, il y eut de l'animation. Il se passait quelque chose. Chacun reprit sa place dans la salle d'audience. 10 minutes plus tard, le jury et les 3 magistrats firent leur apparition. Le président resta debout et annonça que le jury avait pris sa décision. À la question « L'accusé est-il coupable ?», la réponse est oui. À la question « L'accusé a-t-il prémédité son geste ?», la réponse est non. Des murmures s'entendirent dans l'assistance. Le président attendit, puis reprit la lecture de son document. À la question « L'accusé a-t-il des circonstances atténuantes ?», la réponse est oui. Les murmures étaient devenus des paroles distinctes. Certains désapprouvaient la position du jury. Robert Rigaud, au nom du peuple français, le jury vous condamne à 20 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 12 ans. Vous disposez d'un délai de 10 jours pour interjeter appel à ce jugement. Avez-vous une dernière chose à déclarer? Oui, monsieur le président. Je remercie le jury et j'espère que la famille me pardonnera le jour venu. Martine Bedel, Régis et ses enfants, Vanessa et Kevin, étaient écœurés par le jugement. Ils ne comprenaient pas la décision des jurés. Maître Livy avait su prendre aux tripes les femmes et les hommes. Il avait fait la plaidoirie adéquate. Sagol avait compris à la fin de l'intervention de l'avocat que ce diable d'homme avait fait mouche. C'était un félin. Il s'était montré discret, voire effacé durant la phase d'instruction, et il avait sorti ses griffes pendant le procès. Maître Livy était de la race des grands du barreau. Pour l'adjudant-chef Sagol, l'affaire était terminée. Toutefois, il se posait des questions et doutait d'en connaître un jour les réponses.